Patrice de Plainquette, journaliste, écrivain, conférencier, blogueur. Il est l'auteur en 2009 d'un essai sur la réalité et les enjeux du développement des évangéliques dans le monde. À ma gauche, avec son épouse Jean-Baptiste Maillard, qui en 2006 lance et anime Annuncio au blog, qui est l'auteur en juin 2009 d'un essai sur l'évangélisation « Dieu est de retour », la nouvelle évangélisation de la France, depuis novembre 2009, responsable internet, journaliste pour le premier mensuel gratuit catholique, L'Invisible. Voilà, alors c'est avec eux que nous allons donc poursuivre ces témoignages sur le thème que nous avons donc commencé d'aborder, nouveaux enjeux, possibilités missionnaires au travers des médias. Je vais demander immédiatement, suivant les mêmes règles que précédemment, à Timothée Berton de prendre la parole pour 15 minutes. Et ensuite, à la fin, nous aurons, après avoir entendu les trois intervenants, possibilité de pouvoir poser des questions et intervenir à notre tour.
Bonjour, je suis donc Timothée Berton, je suis marié, j'ai 5 enfants. Et donc j'ai développé on a commencé il y a 5 ans, le premier site de téléchargement catholique qui s'appelle exultet.net. Qui permet de télécharger donc des enseignements, des conférences, des retraites, des formations, de la musique aussi, musique chrétienne, et des partitions. Voilà. Et puis on travaille sur d'autres développements. Alors, avant de décrire un peu ce qu'on fait, je voulais juste dire un petit mot sur comment est venue cette idée et comment on l'a développée. Et en fait, au départ, c'est parti d'une expérience personnelle. C'est d'avoir été beaucoup nourri dans ma foi personnelle d'enseignement, d'homélie, de retraite. Enfin, cette expérience des disciples d'Emmaüs, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en écoutant la parole, je me suis dit, mais c'est ces enseignements qu'on entend, qui me font tant de bien et qui ont vraiment un impact sur ma vie, ils sont diffusés de façon beaucoup trop confidentielle. Et j'aimerais pouvoir les rendre accessibles à un nombre de personnes beaucoup plus grand. Voilà, donc toujours ancré dans une expérience personnelle. En même temps, cette parole de Saint Paul qui dit « la foi naît de la prédication », donc de rendre accessible cette prédication. Et donc c'est de là d'où tout est parti, en fait, de ce désir personnel de rendre accessibles tous ces lieux, tous ces trésors de spiritualité et d'enseignement de l'Église. C'est comme ça qu'Exultet a commencé, avec d'abord uniquement des enseignements, des retraites, des formations, et ensuite on a étoffé le contenu. C'est parti aussi d'un constat que dans l'Église, il y a beaucoup de chapelles, il y a une grande diversité de prédicateurs, de communautés, de spiritualités, de lieux de formation, et que ces chapelles-là sont un peu hermétiques et communiquent pas beaucoup entre elles. Et que c'est que quelqu'un qui est affilié à un mouvement, à une communauté, eh bien, il va avoir tendance à aller se nourrir à cette communauté et il va ignorer tout le reste de l'Église qui a des charismes différents, des grâces différentes. Et on s'est dit, ça, il faut le réunir dans un même endroit et ouvrir les portes de l'Église et de ses chapelles. Voilà, j'ai fait le constat aussi, puis avec mes deux associés avec qui on a fondé Exultet, qu'il y avait donc cette extrême diversité et cette grande richesse spirituelle, mais qu'elle n'était pas du tout, elle était trop peu accessible à notre goût aux chrétiens. Et donc, il y a eu une série d'opportunités qui nous ont permis de mûrir ce projet. D'abord, une opportunité technologique, de se rendre compte que on a lancé le site en 2006, mais on a commencé à travailler en 2005. C'était l'époque où on commençait à parler beaucoup d'iTunes. On parlait beaucoup des espaces de téléchargement, de la musique en ligne, etc. Et donc les outils technologiques et la culture du public étaient éduqués à ça. Voilà. Donc il y avait les outils technologiques et il y avait en même temps le début d'un changement de mentalité, de consommation, d'habitude des gens. Donc c'était une opportunité pour nous. Et puis c'est aussi, à l'origine de ce projet, une rencontre de personnes. Donc une rencontre successive. Moi j'ai rencontré une première personne à qui j'ai partagé mon projet, qui m'a dit « mais moi j'ai exactement le même ». Et puis une troisième personne qui a dit « mais moi aussi c'est exactement ce que je veux faire », à avec des compétences complémentaires. Nous, pour commencer, il nous fallait une personne qui s'occupe d'ingénieur du son, développeur, et puis une personne plus web et une personne plus gestionnaire. Et donc, on avait l'équipe de départ pour commencer. Voilà. Alors, Exultet aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord un immense contenu accessible en téléchargement. Hein, et en, donc, téléchargement, c'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, mais on offre la possibilité de pré-écouter gratuitement des extraits, soit de musique, soit d'enseignement. Et puis ensuite, pour avoir l'intégralité, ben, on paye, on télécharge un fichier sur son ordinateur qu'on peut écouter sur, sur son iPod, sur son MP3. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 10 000 titres de musique, avec des productions de musique chrétienne de partout. Enfin, c'est le plus grand espace aujourd'hui, je pense, en France, où on peut trouver de la musique chrétienne, avec la musique des communautés comme le Chemin Neuf, les Béatitudes, l'Emmanuel, des Thésées, mais aussi des grands labels comme Harmonia Mundi en musique sacrée, comme Jeanne Musique. Donc il y a aussi des monastères, de la liturgie, du chant religieux. Donc il y a toutes les formes de musique dessus et on augmente en permanence le catalogue. Il y a même de la musique. Hier on disait que toutes les formes de musique ne convenaient pas forcément à l'évangélisation, mais il y a même du hard rock chrétien, hein, des hard rockers italiens qui sont convertis et qui se sont dit, mais pour aller toucher ce public de hard rockers, on ne peut pas tout de suite leur faire écouter du chant grégorien, donc il faut qu'on aille les rejoindre là où ils sont, avec la musique qu'ils aiment entendre, mais avec des paroles qui vont petit à petit les amener vers autre chose. Voilà. Donc c'est un grand portail musical. Il y a aussi plus de 4000 enseignements, retraites, formations théologiques, avec issues de... Il y a aussi beaucoup de sessions aussi. On permet par exemple, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur une session comme Paralmonial l'été, bah, de pouvoir y avoir accès sur le site. Et donc il y a énormément d'intervenants, d'orateurs, il y a des évêques. On a aussi exhumé des fonds d'archives comme des fonds d'archives du père Varillon, d'un théologien comme Jean Doja, donc du père Molinier. Toujours avec cette intuition que ce contenu qui a été développé pour prêcher une retraite à 30 personnes, c'est trop dommage, ou à 40 personnes, c'est trop dommage que tout le travail investi par le prédicateur, il porte un grand fruit dans la vie de ces 30-40 personnes qui écoutent, mais qu'ensuite ils soient plus accessibles. Voilà, donc c'est le service qu'on rend. Et également, on a plus de 1000 partitions en ligne, avec des partitions pour animer des célébrations, des mariages, des baptêmes, son groupe de prière. Donc voilà. Donc ça, c'est le contenu. Ensuite, on a rencontré un public qui, du monde entier qui télécharge chez nous maintenant, avec des Français de métropole, mais aussi un service très intéressant pour les Français à l'étranger, qui téléchargent depuis Hong Kong, depuis New York, depuis l'Afrique. Et donc des gens qui ont soif de se nourrir, mais qui sont un peu isolés dans leur... Il n'y a pas toute la ressource spirituelle qu'ils voudraient dans ces pays-là, qui viennent aussi télécharger sur le site. Voilà. Et donc, pour l'instant, on a développé principalement l'audio et puis les partitions avec la musique. Et aujourd'hui, nos perspectives de développement, c'est de se mettre sur de développer assez rapidement le livre numérique et de pouvoir proposer un téléchargement des livres numériques, parce que le marché commence à être mûr aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, des vidéos. Voilà. Et donc, voilà. Donc en fait, la finalité d'Exultet, c'était d'utiliser les nouveaux outils technologiques pour rendre accessible un contenu très large, très facilement accessible, de chez soi. Tout le monde a un ordinateur aujourd'hui et pouvoir accéder. Je veux écouter quelque chose sur l'éducation des enfants, j'ai tout de suite un contenu avec des très bons orateurs. Je veux vivre une petite retraite pour le carême, je veux écouter de la louange, et donc de pouvoir trouver, de rendre accessibles en fait les trésors de l'Église. Alors, on nous a demandé de dire un petit mot sur une relecture missionnaire de cette entreprise, et puis de une nouvelle forme d'évangélisation. Moi, ce que je porte au fond de moi, et ce qui a été aussi un élément très... motivant pour moi dans ce projet-là. Ma conviction de fond, c'est que l'Église a les paroles de la vie éternelle. Hein, ça, c'est pas de moi, hein, c'est le texte du jour même, c'est Saint-Pierre. Mais qu'elle a les paroles de la vie éternelle, donc elle a le fond elle a les paroles qui vont faire du bien, conduire vers Jésus, donner le bonheur, aider les gens à construire leur vie. Elle a une richesse d'enseignement incroyable, mais que le défi de l'Église à chaque époque, c'est d'inculturer ce message dans, dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, chez les personnes qui vivent aujourd'hui, pas celles, les personnes d'hier, pas les personnes de demain, mais les personnes qui vivent aujourd'hui. Voilà. Et il me semble que c'est un défi majeur pour l'Église en général et pour les médias chrétiens en particulier. On en a déjà un petit peu parlé dans la précédente table ronde, mais d'avoir ce souci de se dire, mais on en a parlé aussi hier soir avec les disciples d'Emmaüs, comment ce trésor de la foi, on va pouvoir le rendre accessible à déjà à des gens qui ont une certaine culture chrétienne, encore plus à des gens qui n'ont aucune culture chrétienne. Alors là, les exemples sont... je vous donne juste un petit témoignage, mais quand je me suis converti, j'étais étudiant à HEC et je me spécialisais dans le marketing. Et donc, on nous apprenait des techniques de vente, on nous apprenait que pour vendre un produit, il faut d'abord avoir un bon produit qui apporte des bons avantages, et ensuite, il faut le mettre en main du client et lui donner envie et lui montrer que ça répond à un besoin précis pour lui dans sa vie. Et pendant tous ces cours que j'écoutais, moi qui venais de vivre une expérience forte avec le Seigneur, mais je me disais, mais le meilleur produit, nous on l'a. Le meilleur produit, c'est Jésus. Et je me suis dit, mais moi c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux servir, puisque moi j'étais très intéressé par les aspects marketing. Je veux utiliser toutes ces techniques et puis toute cette façon de réfléchir pour rendre Jésus accessible au plus grand nombre. Voilà. Et il me semble que là, il y a un chantier immense. Hein. Je pourrais citer tous les domaines dans lesquels on pourrait appliquer ça, mais on pourrait parler de l'enseignement de l'Église, par exemple, en morale sexuelle, hein, où l'Église a une parole de vie incroyable quand on s'y confronte, quand on la travaille, quand on regarde la vision de la sexualité qui est développée par Jean-Paul II, voilà, et par des organismes comme Leclerc, etc., qui travaillent dessus. Mais qu'est-ce qui en est perçu dans la société aujourd'hui ? Eh bien, on voit que c'est plutôt une vision... négative, que c'est pas du tout une vision positive ou une vision qui porte vers la vie. Hein. Et donc, il me semble que là, il y a tout un créneau à investir. Après, je peux multiplier les exemples, mais il y a aussi le créneau de la catéchèse pour les enfants, plus dans le domaine paroissial. J'étais très content d'entendre l'évêque hier dire de constater les difficultés de catéchisme dans une paroisse, dans un collège. Mais c'est vrai que les enfants, aujourd'hui, à 3-4 ans, quand on les emmène à l'église, au bout de deux fois, ils n'ont plus envie d'y retourner, hein, dans 90% des paroisses. Donc, comment ça se fait que les enfants qui sont l'avenir de l'église, qui sont l'église de demain, on n'en prend pas plus soin et on ne leur met pas un message qui soit adapté à leur psychologie, à leur développement d'enfants de 3-4 ans. Voilà. Alors, il me semble, moi, c'est ma conviction de fond, que dans ce domaine-là, il y a un chantier immense, justement, d'inculturation, hein, de l'évangile, d'utiliser les codes culturels d'aujourd'hui, le langage et, qui nous permet de rejoindre justement toute cette génération. Voilà. Alors, comment développer la nouvelle évangélisation sur le territoire qui est le mien, qui est plus le territoire des médias? Je vous donnais quelques éléments, hein, de mon point de vue, de ma fenêtre. Bien sûr, je ne vais pas tellement parler du fond, parce que le fond, si vous êtes ici, on est à peu près tous d'accord qu'il faut annoncer que le Seigneur nous aime, l'amour du Seigneur, la relation personnelle avec lui, cette incroyable nouvelle qu'on a un Dieu qui vit en nous, qui est au plus intime de nous. Donc ça, je pense qu'ici, dans ce milieu-là, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ensuite, sur la façon de le communiquer, il me semble qu'en tout cas, au niveau des médias, il y a un ticket d'entrée qui est des réalisations de qualité dans tous les domaines. Hein, on a vu tout à l'heure l'invisible, où on a vu que pour justement qu'il y ait un journal qui puisse être lu par des non-chrétiens, il faut faire des études très précises, bien réfléchir son coup, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment il faut parler pour que justement il y ait une prise en main qui soit possible. On ne peut pas s'y lancer en se disant avec juste des bonnes intentions. Donc sur un autre exemple concret, sur un site comme Exultet, ben, ça a demandé... des compétences humaines, des investissements financiers, ça a demandé des ressources marketing. Donc il me semble que sur l'aspect média, là, c'est très important de... Ticket d'entrée, c'est ça, sinon il n'y a pas d'existence possible. Je voudrais vous donner un exemple par rapport à la musique chrétienne, parce que j'y suis sensible aussi, parce qu'on la distribue sur Exultet. Mais pourquoi on peut se poser la question de savoir pourquoi la musique chrétienne se développe si lentement en France, alors qu'on voit bien que c'est un outil formidable pour toucher en particulier les jeunes, mais pas uniquement les jeunes. On voit que la musique rock est quand même arrivée dans les années 60, il y a eu toute une révolution culturelle. Tous les jeunes aujourd'hui écoutent du rock, toutes ces sortes de musique actuelle. Et comment ça se fait que l'Église soit aussi absente en France de ce terrain-là? Voilà. Et donc, il me semble qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Il y a des tas de groupes qui émergent et avec des expériences plus ou moins satisfaisantes. Il me semble que là, il y a un vrai accompagnement de l'Église. Ça commence, hein? Pour mettre en place des structures, je pourrais parler des heures, pardon, qui permettent justement le développement de la musique chrétienne. Voilà. Alors je vous dis juste deux derniers points, puis j'arrête. C'est donc ce souci, j'ai liste juste, hein, un souci constant d'inculturer notre message de manière à ce qu'il rejoigne les gens dans leur vie. Hein, et un bon exemple par rapport à ça, il me semble que c'est les JMJ. Hein, aujourd'hui, les gens ont besoin de communier dans des événements de masse. Bon, et ben donc les JMJ sont une très bonne réponse, mais il me semble qu'il faudrait l'appliquer beaucoup plus sur l'Église de France. Hein. Et le dernier point, c'est la place des laïcs. La place des laïcs, pourquoi? Parce que ils sont dans le monde sans être du monde, et ils sont confrontés à la réalité de la vie de tous les jours, et ce sont des excellents traducteurs de l'Évangile en français courant. Voilà, j'arrête là-dessus.
Journaliste, j'ai eu la grâce de la conversion aux sessions de Parel Monial en 1986, 24 ans déjà. Monseigneur, vous vous en souvenez, c'est là que je vous ai connu. Depuis 5 ans, j'anime un blog, c'est mon devoir d'État puisque je suis journaliste, et que c'est un blog de journalisme. Vous savez tous ce que c'est qu'un blog. C'est un site internet personnel, on met les contenus qu'on veut. Moi, j'y fais du journalisme chrétien, bénévole, sur la toile. C'est-à-dire que je réagis à l'actualité en essayant d'apporter un éclairage chrétien dans les débats, débats très ouverts, bien entendu. Donc, quotidienneté, réactivité, rapidité, le journalisme quotidien, c'est un esclavage, c'est-à-dire que ça prend des heures et des heures, ça prend une grande partie de mon temps. Mais surtout, ce qui est passionnant avec les blogs sur Internet, ce que la presse papier, la malheureuse, est bien incapable de donner, c'est la réactivité immédiate du lecteur, qui réagit tout de suite à ce que vous dites, qui vous envoie tout de suite son commentaire, qui est souvent une interpellation. Alors c'est très excitant, mais c'est très ardu. Quand vous recevez à 11h du soir le message de quelqu'un qui vous dit « Prouvez-moi la résurrection de Jésus-Christ et je croirai », vous faites quoi? Si vous ne répondez pas, vous êtes disqualifié. Mais vous ne pouvez pas répondre. Alors il faut s'en remettre au Saint-Esprit et faire au mieux. Donc, et c'est comme ça tout le temps. C'est pour ça que c'est chronophage, que ça bouffe le temps. Parce que c'est tellement excitant, tellement intéressant, et c'est tellement notre devoir, surtout quand on est dans un métier de l'information. Je vous disais que c'est l'actualité. L'actualité, en 2010, c'est en partie, hélas, les attaques contre Benoît XVI. Quoi faire contre ces attaques? Quoi faire de chrétien contre ces attaques? Eh bien, les blogs, justement, ont donné l'exemple de ce qu'on peut faire, puisque c'est par les réseaux sociaux, la mobilisation des blogs de plus en plus nombreux, de tout le réseau Internet, qu'on a monté il y a 3 semaines l'appel à la vérité, solidarité avec les victimes de la pédophilie, mais solidarité aussi avec l'Église catholique. L'appel en est à l'heure actuelle à quelque chose comme 35 000 signatures, parmi lesquelles une quantité étonnante de gens étonnant, je veux dire, de gens qui ne sont pas des chrétiens, de gens qui sont des frères séparés. C'est un message qui a un grand nombre de signatures écuméniques, des pasteurs réformés, luthériens, évangéliques, des orthodoxes. C'est un appel dont les signatures sont apolitiques. Ça a donc tous les intérêts possibles. Bravo Internet, mais est-ce que c'est de l'évangélisation ? Pas évident. C'était une chose qu'il fallait faire. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que c'est évangélisé ? Donc, dans quelle mesure faire de l'action d'actualité, du commentaire d'événements sur Internet est-il de l'évangélisation ? Voilà le vrai problème. Évangéliser, c'est quoi ? C'est, vous le savez mieux que moi, c'est atteindre le moi profond de l'interlocuteur, de chaque interlocuteur, c'est pratiquement du tête-à-tête, pour l'éveiller à la rencontre de la personne du Christ, ce qui l'amènera, lui, tout simplement, à vivre avec Dieu. Ce qui suppose que soi-même, on vive avec Dieu. Sinon, le contact est difficile. Alors, est-ce qu'on peut évangéliser par blog ? La réponse est oui, mais ce n'est pas facile. Plutôt, c'est facile, mais c'est également difficile. C'est facile parce que tout homme a au fond de lui un point de contact avec Dieu. Tout homme, un point de contact qui est en sommeil, mais qui peut se réveiller à tout moment. Tout homme. Or, Internet, par définition, s'adresse à tout le monde. Donc, évangéliser sur Internet, ça devrait être facile. En fait, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que ce quelque chose de commun à tous les hommes, être capable de Dieu, ce quelque chose est étouffé par la société actuelle, voire détourné vers l'hostilité envers le spirituel. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et le net est un terrain propice à cet étouffement ou détournement, puisque c'est un terrain propice à tout. Internet, c'est le meilleur et le pire. C'est ce que l'on en fait. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quel mode d'emploi chrétien de l'action sur Internet peut-on trouver ? Autrement dit, comment le chrétien agissant sur la toile peut-il réveiller chez l'autre, chez l'interlocuteur, celui qu'il ne voit pas, mais qui va se manifester en lui envoyant un commentaire dans les 10 minutes qui suivent, comment réveiller chez lui ce point de contact avec Dieu dans son moi le plus profond, qui est sa vraie personnalité, qui est son être profond, comment éveiller son être profond ? C'est ça l'évangélisation. Mais il n'y a une seule réponse, évidemment, par l'amour que peut éveiller en lui le Christ à travers notre témoignage. À travers notre témoignage. Attention, nous sommes responsables de la qualité du témoignage que nous donnons. Alors, ça s'applique d'ailleurs à l'Internet comme à n'importe quel contact individuel avec n'importe qui. Ce que je dis là est valable aussi si vous ne faites pas d'Internet. De notre part, attention, tout ce qui ne met pas en lumière l'amour est un contre-témoignage. Et à la limite, un contre-témoignage, plus il s'affirme catholique, et pire il est. Il y a des cas où il vaudrait mieux ne pas témoigner du tout que de contre-témoigner, de provoquer chez les gens un réflexe d'horreur ou de mépris, ou etc. Et c'est un danger. C'est un danger comme celui de toute manifestation identitaire. Si on se met à confondre le témoignage du chrétien avec une manifestation identitaire, on est foutu. Très important. Il faut faire très attention à ça. Parce que si on donne un contre-témoignage, on s'expose à s'entendre poser par Jésus la question que, dans une des traductions du récit évangélique de Gethsémani, ce qu'il dit à Judas, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Alors, comment manifester par blog l'amour qui vient du Christ ? Bien, ça n'est pas compliqué. Premier épître de Pierre, 3, 15, 16. Soyez toujours prêts à rendre à qui vous le demande les raisons de l'espérance qui est en vous. Donner les raisons, c'est un contraste avec le non-sens, avec l'absence d'espérance qui caractérise la société actuelle. Mais Saint-Pierre ajoute, faites-le toujours avec douceur et avec respect. Dans ces conditions, on peut être très optimiste, malgré la difficulté de l'atmosphère de la société actuelle, très optimiste quant à l'écho de l'évangélisation sur Internet, comme ailleurs que sur Internet. Évangéliser, ce n'est pas recruter pour une communauté identitaire, pour un clan ou pour une tribu. S'afficher comme chrétien sous la toile, sur la toile ou dans la vie quotidienne, c'est juste le contraire de ça. C'est mesurer notre insuffisance tous les jours, et ça, ça nous évangélise nous-mêmes. Dans le contact quotidien, sur Internet, comme dans n'importe quel contact quotidien, à la machine à café, au bureau ou à la faculté, nous sommes évangélisés par les autres sans qu'ils le sachent. Alléluia. Voilà.
Maintenant, Jean-Baptiste et Marie Maillard.
Bonjour. Bonjour. Donc Jean-Baptiste et Marie Maillard, on s'occupe d'un blog qui s'appelle annonceblog. Et qui est consacré à l'évangélisation et d'autres sites.
Donc, nous allons faire notre présentation en deux parties. Moi, je vais essayer de répondre à la question pourquoi évangéliser sur Internet et Jean-Baptiste, plutôt comment évangéliser sur Internet. Alors, moi, j'ai une expérience récente puisque évangéliser, je connaissais et depuis 2 ans que je suis mariée avec Jean-Baptiste, j'apprends à connaître tous les jours, au quotidien, l'évangélisation sur Internet. Voilà. Donc, du haut de mes 2 ans d'expérience, j'ai pu observer un premier constat, donc à travers Jean-Baptiste, mais aussi à travers mon travail, puisque dans mon travail, je vais visiter de nombreuses entreprises, et je m'aperçois que partout, Internet devient un incontournable. Donc, un incontournable dans le milieu professionnel, c'est un outil préférentiel pour faire des recherches. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va chercher des informations, même moi, hein, dès que je veux me tenir au courant des dernières données, etc., dans mon domaine, eh bien, je vais sur Internet. Donc c'est vraiment un incontournable. Ensuite, c'est aussi un outil extra-professionnel. On le voit notamment chez les jeunes aujourd'hui. Bah, qu'est-ce qu'ils font le soir en rentrant? Bon, certains vont devant la télé, mais souvent après avoir regardé leur mail sur Internet. Et puis, certains passent toute leur soirée dessus. Donc, c'est devenu un vrai outil de communication. Et au lieu des anciennes petites cartes postales qu'on s'envoyait quand moi, j'étais adolescente et que j'envoyais à mes copines des cartes postales, et bien aujourd'hui, la plupart des jeunes s'envoient quoi? Ben, des mails. Voilà, donc c'est vraiment un outil de communication. C'est aussi un outil de divertissement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut télécharger de la musique, des vidéos, des jeux, plein de choses comme ça. Et c'est aussi un outil de recherche d'informations personnelles, donc que ça soit sur différents thèmes, sur Google, donc on peut tout chercher, Google News, etc. Mais aussi sur les forums. Alors voilà, moi, quand j'ai attendu mon premier enfant, je me posais plein de questions, donc j'allais sur les forums pour essayer de comprendre, etc. Et donc les gens aiment bien se parler, avoir une discussion. Il y a comme une espèce de petite communauté, des fois, qui se crée. Alors les gens se répondent et puis ils finissent par se connaître. Et puis il y a une vraie communication sympathique, alors voilà, des fois plus ou moins sympathique, hein, parce que des fois il s'accroche un peu, mais on voit qu'il y a une vraie vie, quelque chose de très vivant qui interpelle beaucoup. Et puis aujourd'hui, le monde virtuel, par rapport à nous, notre foi, eh bien, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Il y a 10 ans, on ne s'imaginait pas du tout ce que Internet allait devenir et tel que c'est aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas dans 10 ans ce que ça va être. Donc la question pour nous chrétiens, c'est de se demander, est-ce qu'on reste sur les bancs et que voilà, on regarde ce qui va se passer, et puis dans 10 ans, ben on aura pris du retard, voilà, et il faudra rattraper le retard. Ou est-ce que aujourd'hui, eh ben on se dit, on va être innovant, on va se lancer, ça fait un peu peur, mais on avance, et puis ben dans 10 ans, ben on aura peut-être de l'avance, et par rapport aux autres, voilà. le pape Benoît XVI dit que Internet est un continent à évangéliser. Et en effet, quand on va sur Internet, on voit que c'est une vraie ville avec des magasins. Donc vous avez WooShop pour faire vos courses. Vous avez Voyage SNCF pour commander vos billets de train. Vous avez des kiosques, vous avez la banque postale, vos différentes banques, etc. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que, il y aura une cathédrale numérique où, qui sera belle, attirante, où les gens passeront devant le portique et se diront ben, « Oh tiens, j'ai envie d'y rentrer, bon, je suis un peu fatiguée ». Vous savez, il y a des gens qui viennent dans les églises juste pour se reposer 5 minutes et puis ils restent dans le silence. Est-ce que sur Internet, on va pouvoir aménager des lieux comme ça, des lieux de vie de prière où on pourra peut-être prier pour ceux qui en ont besoin, qui ont le désir, etc. Voilà. Et Internet, pourquoi évangéliser ? Parce que contrairement à l'évangélisation de rue ou d'autres types d'évangélisation, les gens se dévoilent peut-être plus facilement parce qu'ils sont cachés, ils ont des pseudos. Donc ils se dévoilent sans qu'on sache qui c'est. Et c'est une approche qui est peut-être plus facile pour eux. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui vous explique comment évangéliser.
Comment évangéliser sur Internet ? J'ai envie de dire Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Finalement, est-ce que l'écoute n'est pas une attitude indispensable pour tout prophète, pour tout évangélisateur ? Et est-ce qu'on est assez dans l'écoute ? Et je crois qu'il y a une grande tentation sur Internet, c'est de se contenter d'utiliser ce média comme un simple média, justement, comme un simple tuyau dans lequel on va faire passer des informations sans se soucier de ce que les gens attendent vraiment. Et est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Par exemple, si je prends l'exemple des médias chrétiens, une chaîne de télé va avoir tendance à se contenter d'utiliser Internet comme un média où elle réplique son contenu. Elle va mettre une émission en ligne, une radio, elle va mettre ses émissions en ligne. Il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Un journal va faire comme ça, une association souvent va utiliser Internet comme une vitrine. Mais quel est l'espace justement de l'écoute ? Est-ce qu'on s'intéresse aux aspirations de nos contemporains éloignés de Dieu ? Est-ce qu'on se demande au fond de notre cœur, est-ce qu'on demande à l'Esprit-Saint de nous éclairer quelles sont leurs attentes et comment on va leur répondre ? Est-ce que sur les sites de nos diocèses, il y a un espace dès la page d'accueil où le non-catho de passage, ayant entendu parler de quelque chose, tombe sur le site et finalement est interpellé par une parole de vie, par une parole de l'Évangile qui va toucher son cœur ? Est-ce que sur un site de paroisse, on pense aussi à cet espace qu'on appelle finalement de première annonce ? Et là, il y a un champ immense à investir. C'est ce que font les évangéliques. Ils ont une avance considérable sur Internet. Leurs sites sont 20 fois plus visités que nos sites institutionnels. Ils trustent les résultats de recherche dans Google sur les mots chrétiens les plus connus, Bible, Dieu, Jésus. Ils sont aux premières loges. Ils ont un navire amiral qui s'appelle Top Chrétien, qui à lui seul fait des centaines de milliers de visiteurs chaque jour. C'est considérable. Et ils ont aussi un petit vaisseau à côté qui s'appelle Connaître Dieu. Et là, c'est un site de rencontre. Mais ce n'est pas un site de rencontre pour rencontrer l'âme sœur. C'est un site de rencontre pour rencontrer Dieu. Et c'est formidable parce qu'ils proposent aux gens de faire un chemin de foi en ligne. Alors, ça commence par des paroles directement issues de la Bible. Et puis, ils leur proposent une prière en ligne. Et alors, on voit apparaître sur une carte, à la fin du parcours, les gens qui ont prié en ligne. Et on voit Istanbul. Un musulman qui a fait une petite prière de conversion. Alors, s'est-il converti ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon début. Et c'est aussi à nous catholiques, de s'inspirer de ces méthodes. Pas forcément de faire des copier-coller, mais en tout cas d'être aussi à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint peut nous dire à travers ce qui se fait dans d'autres églises que la nôtre, pour nous aussi s'y mettre. La deuxième chose, c'est comment proclamer ? Comment proclamer la parole ? Il y a plusieurs façons. Il y a d'abord le témoignage de conversion. Le témoignage de conversion, il est super parce qu'il peut toucher les gens dans leur vie quotidienne. Un alcoolique qui s'est converti va pouvoir toucher un alcoolique. L'inconvénient, c'est que parfois, ça peut nous paraître inaccessible, en tout cas pour un non-croyant. Il y a aussi le témoignage de foi, la foi vécue, simple, au quotidien. Et ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs si c'est kérigmatique. C'est-à-dire, s'il y a un moment ou un autre, on annonce le kérim, qui est le contenu de la foi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et ce qui peut être fait aussi, c'est toute l'apologétique. Alors, avec un énorme avantage, c'est que beaucoup de gens, justement, si on part des aspirations des gens, se posent ces questions. Typiquement, les croisades, l'Inquisition, et tout récemment, Pie XII. On a monté avec un ami il y a 3 ans un blog qui s'appelle P12.com et qui est aujourd'hui le site le plus visité sur la question. Au moment de toute la polémique sur P12, on était à 2000 visiteurs uniques par jour, c'est-à-dire 2000 visiteurs qui viennent une seule fois et qui, s'ils reviennent, ils ne sont pas comptés. Énormément de gens ont posé des questions sur ce blog. Aujourd'hui, on l'a confié à un historien, docteur en histoire, spécialiste de cette époque, et ça cartonne, parce qu'il y a un vrai besoin. Les gens se demandent, mais P12, et on voit ce qu'ils tapent dans les mots-clés. On voit, ils tapent P12 Hitler, P12 nazi. Ils se posent ces questions-là. Et comment on leur répond ? Et bien, à travers ce blog, on leur répond. Et comme il est bien fait techniquement, il ressort dans les moteurs de recherche et il est numéro 1 dans Google. Donc forcément, ça marche. Et en même temps, il est référencé aussi dans Google News, qui est un moteur d'actualité qu'utilisent les journalistes. Et ce qui est avantageux avec ça, c'est qu'on arrive à apparaître à côté des dépêches de l'AFP, des articles du Monde, et du coup, ou du Figaro, ou d'autres. Et du coup, on arrive aussi à faire un peu un contrepoids, alors qui est très, très limité, parce qu'on n'a pas les visites du Monde et du Figaro, mais on a quand même des retours. Et puis je voudrais vous parler un peu de mon blog, Annuncio Blog, que j'anime maintenant avec Marie. Ce qui est fabuleux avec ce blog, c'est qu'on a aussi un peu comme Patrice nous l'a raconté tout à l'heure, beaucoup de gens qui nous écrivent et qui ne sont pas cathos. Notamment récemment, on parlait de la défense de la vie. Vous savez que défendre la vie, c'est aussi évangéliser, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il y a quelqu'un qui était sans doute du planning familial qui a mis un commentaire très très virulent, et on a essayé de discuter avec cette personne qui était une femme, et en fait là j'ai laissé Marie lui répondre parce que je trouvais qu'une femme c'était plus approprié, et elle s'est posée en fait des questions sur l'au-delà. C'est assez étonnant, finalement c'est pas si étonnant que ça, puisque la vie, la mort, c'est cette même question. Et voilà, l'au-delà, c'est une question énormément tapée dans Google. La vie après la mort, vous faites un sujet sur ce thème, vous êtes sûr que beaucoup de gens vont aller voir votre page. Et puis aussi, sur Annuncio Blog, il y a l'athée de service qui, maintenant, on a appris à le connaître. Il s'appelle Mathieu et il répond souvent aux commentaires. Alors, il n'est pas toujours d'accord avec nous, mais il est pas baptisé. Mais il pose souvent des questions très, très intéressantes. Récemment, la petite histoire, c'est un catholique qui passait par là et qui dit « Mais nous, catholiques, est-ce que c'est vraiment notre rôle d'évangéliser les athées ?» Lui, athée, ah, il répond. Et il dit, écoutez, moi je suis athée, je suis pas croyant, je suis pas baptisé, mais je vais vous dire ce que je pense de l'évangélisation à la lecture de ce blog et de ce qui s'est dit. C'est comme si vous avez deux bons copains, un garçon ou une fille qui ne se connaissent pas, et vous vous dites, tiens, mais ça pourrait, comme on dit, matcher, ça pourrait marcher. Comment est-ce qu'on peut faire? Et finalement, évangéliser, c'est provoquer cette rencontre. Vous allez organiser un petit dîner. Un petit dîner comme ça, sans rien dire, et puis finalement vous allez provoquer une rencontre. Et l'évangélisation, c'est ça, c'est justement proposer une rencontre avec le Seigneur qui est le moteur de notre vie, celui qui nous fait vivre, celui qu'on aime, celui pourquoi on est là tous ici aujourd'hui. Et dernière petite chose pour évangéliser aussi, qui est à la portée de tout le monde, parce que bon, les chantiers sont immenses. On pourrait faire des web TV d'évangélisation, on pourrait faire des télé avec des vidéos, on pourrait faire des... J'ai lancé récemment un Wikipédia en ligne spirituel, ça s'appelle wikispi.com. J'ai eu la joie de découvrir au bout de 3 jours qu'un inconnu avait posté tous les papes. Voilà, bon, ça démarre, je ne sais pas ce que ça donnera. Et là aussi, c'est pour... Voilà, il faut utiliser ces techniques. Wikipédia, vous savez que ça a détrôné les plus grandes encyclopédies d'Universalis au Quid, en passant par les autres. Eh bien, il faut aussi qu'on s'y mette. Donc j'invite tous ceux qui d'entre vous voudraient évangéliser sur Internet à poster des commentaires sur Annuncio Blog, répondre aux gens, parce qu'il y a une vraie demande. Et il faudrait peut-être un jour, Monseigneur, créer une communauté de laïcs qui seraient des missionnaires de l'Internet et qui évangéliseraient. Ça serait vraiment leur charisme. J'espère que peut-être ça pourrait venir dans le diocèse de Toulon. Je ne sais plus où j'en étais. Facebook, voilà. Alors Facebook, c'est très facile, hein. C'est pas besoin de créer un site, vous vous inscrivez. Je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui ont Facebook. Facebook, c'est 300 millions d'utilisateurs dans le monde, 10 millions d'utilisateurs en France. 10 millions d'utilisateurs en France, vous faites le calcul, 3% de catholiques pratiquants, il y a bien 5 millions au minimum de gens évangélisés sur Facebook qu'on peut toucher à portée clic. Car ce qui est merveilleux avec Facebook, pour moi, ce n'est pas un outil sur lequel on doit raconter sa vie, c'est un outil pour évangéliser. Et ce qui est merveilleux avec cet outil, c'est qu'on peut devenir le copain de tout le monde. Et donc, c'est ce que je fais. Et comme ça, je suis copain, moi, avec tout le monde. Alors, j'ai 800 amis. En réalité, c'est faux. Bien sûr, j'en ai beaucoup moins. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut évangéliser facilement. Alors, avant Pâques, je me suis dit, on va évangéliser un peu. Je vous donne un petit témoignage. Et j'ai envoyé un petit kérigme par message, en contactant comme ça un peu les gens sur mon profil et puis aussi par message. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Et je dis aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est marrant parce que j'ai eu les catholiques qui m'ont répondu, ah ouais, c'est génial et tout, bon super. Et puis j'ai eu des non-croyants qui m'ont répondu aussi, et notamment un gars qui m'a dit que j'étais complètement cinglé. Et on a continué, et on a continué à discuter. Et puis finalement il m'a dit, de toute façon, moi, Dieu, je ne l'intéresse pas. Alors je lui dis, ah bon, pourquoi Dieu, tu ne l'intéresses pas? Il me dit, bah, j'ai trop de péchés. Trop de péchés, ah bon. Alors écoute, si tu veux, dis-moi où tu es, et on va peut-être essayer de te faire rencontrer un prêtre. Il me dit, la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, ah bah je connais du monde là, vous pensez? La Seine-sur-Mer. En plus, il se trouve que j'ai habité à la Seine-sur-Mer quand j'étais petit. Voilà, marrant. Et donc, et du coup, je regarde un peu, vous savez, avec Facebook, on peut savoir quels sont les amis communs. Il suffit de voir amis communs, on voit les amis communs. Et qui je vois dans les amis communs, un seul ami commun. Père Axel, vous savez, le prêtre qui évangélise en boîte de nuit à Toulon. Alors là, je lui envoie un message et je lui dis, Père Axel, c'est marrant, parmi nos amis communs, il y a un gars qui dit qu'il a trop de péchés et je pense que vous pourrez peut-être le rencontrer, qu'est-ce que vous en pensez? Et il me dit, ok, banco, on y va. Et voilà, c'est comme ça que depuis Paris, on peut évangéliser à Toulon.
Témoignage porte sur la place d'Internet dans notre société, la place des chrétiens sur Internet, ce désir de connexion, cet instinct de communication qui fait partie de cette volonté d'une mise en relation les uns avec les autres, profondément aux dispositions de l'être humain aujourd'hui dans un univers globalisé et aussi en même temps atomisé. Je lis ce que disait le pape Benoît XVI, le 24 mai 2009, à l'occasion d'un message pour la 43e journée mondiale de communication sociale, il parlait des nouvelles technologies, nouvelles relations. Et il insistait sur trois points, et on pourrait peut-être repartir de cela en attendant que les questions remontent jusqu'ici, trois points d'attention que soulignait le Saint-Père dans cet usage d'Internet. Promouvoir une culture du respect, du dialogue et de l'amitié. Du respect, je le cite, si les nouvelles technologies doivent servir au bien des individus et de la société, ceux qui les utilisent doivent éviter l'emploi de mots, d'images dégradants pour l'être humain et donc exclure ce qui alimente la haine, l'intolérance, avilie la beauté et l'intimité de la sexualité humaine, exploite les personnes faibles et sans défense. Le respect. Deuxième enjeu, le dialogue. Les nouvelles technologies, je cite Benoît XVI, ont également ouvert la voie au dialogue entre les personnes de différents pays, cultures, religions. La nouvelle arène digitale, cyberespace, permet de se rencontrer, de connaître les valeurs, les traditions des autres. Toutefois, pour être féconde, de telles rencontres requièrent des formes d'expression honnêtes, correctes, ainsi qu'une écoute attentive, respectueuse. Encore faut-il ne pas se laisser duper par ceux qui cherchent tout bonnement des consommateurs sur un marché de possibilités indifférenciées, où le choix en lui-même devient le bien. La nouveauté se fait passer pour la beauté, l'expérience subjective remplace la vérité. Et troisième enjeu, l'amitié. Ce concept d'amitié a bénéficié d'une relance renouvelée dans le vocabulaire des réseaux sociaux digitaux apparus ces dernières années. Ce concept est d'une des plus nobles conquêtes de la culture humaine. Mais c'est pourquoi il faut être attentif à ne pas banaliser le concept et l'expérience de l'amitié. Il serait regrettable que notre désir de consolider, développer des amitiés online se réalise au détriment de notre disponibilité envers notre famille, envers nos voisins, nos amis, nos proches, envers ceux que nous rencontrons dans notre existence quotidienne, sur notre lieu de travail, à l'école, pendant nos loisirs. Et je termine. En effet, souligne Benoît XVI, lorsque le désir de connexion virtuelle devient obsessif, la conséquence en est que la personne s'isole, interrompant ainsi l'interaction sociale réelle. Voilà trois enjeux de cette présence chrétienne, cette évangélisation par Internet, le respect, le dialogue et la vraie amitié. Alors, est-ce que vous pourriez réagir sur ces différents points d'attention que souligne le Saint-Père, et puis j'attends donc les questions.
Ce qu'on peut dire, moi ce qui me touche beaucoup dans ce que disait Benoît XVI, c'est quand le choix remplace le bien. Et ça c'est quelque chose qu'on peut discuter avec les gens sur Internet de ça. c'est-à-dire leur dire, est-ce que c'est parce que vous avez tous les choix possibles que forcément chacun de ces choix est bien pour vous? Est-ce que c'est ça le vrai bien? Est-ce que le bien, ce n'est pas plutôt ce qui vous rend libre? Et est-ce que vous n'êtes pas déjà quelque part un peu dans une forme d'esclavage par finalement toutes les structures de péché qui nous gênent tous, moi compris?
Et ça... Oui, lorsque le pape dit que l'expression de la subjectivité remplace le débat objectif, ce n'est pas... Oui, c'est vrai que l'exaltation de tout ce qui est subjectif, voire irrationnel, ça fait partie de la société actuelle, ça fait partie de la société du marketing, c'est le monde publicitaire. Mais le fait que la subjectivité s'exprime, c'est déjà la porte ouverte au dialogue d'évangélisation. Parce que finalement, qu'est-ce que Jésus fait d'autre dans l'évangile que d'aider les gens, si j'ose dire, à accoucher leur subjectivité, c'est-à-dire leurs soucis, leur sentiment de culpabilité, tout ce qu'ils ne s'avouent pas à eux-mêmes, ce que les psychanalystes appelleraient leur inconscient. Que ça, laisser venir ça à la surface. Une fois que c'est venu à la surface, on peut commencer à parler et on parle directement avec le moi profond, le moi caché, le moi inavoué, parce que c'est là que tout se joue. Il faut arriver à dépasser le mur des images, des agitations, le mur des émotions, comme on dit encore une fois en registre commercial, pour arriver au moi réel. Une fois qu'on y est, alors tout commence. Et c'est au Saint-Esprit de jouer.
Alors, pour mobiliser la parole de notre ami Timothée, merci, nous dit une des personnes de la salle, pour l'enthousiasme des trois interlocuteurs. Il me semble pourtant qu'il faudrait distinguer ce que fait exultet.com et Annuncio Blog. L'un est un site commercial et forcément l'annonce, en guillemets, est aussi intéressée. Je n'ai rien contre, mais c'est différent.
C'est sûr, on peut le voir comme ça, mais c'est toujours la problématique dans l'Église catholique du rapport à l'argent. Hein, et c'est vrai que si on veut, par exemple, de la musique chrétienne de qualité, il va falloir que des gens puissent se spécialiser là-dedans et qu'ils puissent en vivre. Donc il va falloir qu'il y ait une économie derrière. Hein, donc ça, c'est l'exemple de la musique chrétienne. Si je prends l'exemple, par exemple, de tous les enseignements qu'on va chercher, les formations... et qu'on met sur le site Exultet, hein, et ben derrière ça, il y a des orateurs, il y a des communautés, hein, et qui vivent aussi de ce travail-là, entre guillemets. Et donc, dans chaque fois que quelqu'un télécharge un enseignement, par exemple, il y a une bonne partie des recettes qui vont soit pour le producteur, soit pour l'orateur, soit pour le groupe de musique, soit pour le compositeur, voilà. Et donc, voilà, il me semble que c'est important de redire ça parce que c'est aussi le gage d'une qualité éditoriale. Hein, et on n'est pas du tout embêté quand il s'agit d'aller acheter un livre, parce qu'on se dit, bah oui, c'est normal, il faut imprimer le papier, il faut payer l'auteur, etc. Mais c'est pareil sur Internet, voilà. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on essaye de récupérer le vrai, le bien et le beau qui se fait dans l'Église, et de le rendre accessible sur la toile. Hein. Aujourd'hui, c'est un... Bon, puis pour donner un témoignage personnel, c'est aussi un sacrifice personnel dans le sens où aujourd'hui, c'est un site qui se développe beaucoup, mais qui n'est pas encore rentable, hein, qui donc, en fait, on y passe des nuits et des nuits sans économie vraie encore aujourd'hui. Donc, il y a toute une dimension missionnaire apostolique derrière qui est peut-être cachée, mais qui je pense, rend un vrai service. Voilà. Et juste pour donner un petit exemple, mais ce contenu-là, donc on l'a mis sur ces contenus qu'on va chercher qui touchent le vrai, le bien, le beau. On le met sur le site exultet.net, mais on s'est dit il faut aussi qu'il soit présent sur des sites non chrétiens. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a été amené à faire des partenariats pour mettre de la musique, mais pas seulement de la musique, mais aussi des enseignements sur des sites comme iTunes, comme Fnac, comme Virgin. Et c'est une façon aussi pour nous chrétiens d'être présents. Et voilà. Et donc pour réussir tout ça. C'est vrai qu'il faut des compétences, il faut des gens, il faut une économie. Sinon, on va rester dans une culture du bénévolat, mais qui ne va pas permettre une diffusion massive de ce à quoi on croit.
Une question ecclésiologique qui me concerne. Que pourrait-on nommer comme évêque pour accompagner les sites web et les cathédrales numériques? Et je dirais, sa seule réponse, un évêque virtuel. Alors, évangéliser sur blogs et sites non chrétiens. Nous avons beaucoup parlé d'initiatives d'évangélisation par les médias chrétiens. Y a-t-il une réflexion amenée sur un dialogue à nouer avec des médias non chrétiens?
Excusez-moi, j'étais en train de discuter avec mon voisin de droite. Et il faut, en plus, étant un vieux monsieur, que je change de lunettes.
Je peux essayer de faire répondre mon voisin.
Voilà.
Patrice, la question c'est comment peut-on évangéliser en partant des médias non chrétiens? Je crois que c'est très difficile personnellement parce qu'ils n'annoncent pas la même chose que nous. Donc là où on peut peut-être proposer quelque chose, c'est justement à travers les commentaires. Vous savez que maintenant, sur pratiquement tous les sites de médias, on peut poster des commentaires. Et là, il y a un apostolat gigantesque à faire. Donc n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous peut aller commenter sur les blogs et donner son point de vue, le point de vue de l'Église et surtout le kérigme.
Oui, parce que la distinction entre chrétiens et non-chrétiens, méfions-nous-en, dans la société actuelle, il n'y a que nous qui raisonnions comme ça, nous et quelques laïcs frénétiques. Pour les gens, ça ne se pose pas comme ça. Pour les gens, il y a les événements, comment les comprendre, et lorsque les événements concernent les chrétiens, eh bien, il faudrait que les chrétiens soient capables de s'expliquer. Et donc, ceux qui ne sont pas capables, il faut qu'ils travaillent pour devenir capables de s'expliquer. Et puis, les sites non chrétiens, sauf encore une fois les militants durs, purs et hargneux, sont en réalité tout à fait ouverts à la discussion du moment qu'on le fait de façon intéressante. Je ne fais pas de la publicité pour mon propre blog, mais enfin j'ai été référencé parmi les blogs qui sont dans le coup des débats actuel, au mois de février, par le site Le Poste, qui fait une sorte de top 10, top 10 des sites tous les mois. Et je me suis retrouvé en compagnie de Colombani, Louis Plenel, etc. Ça ne veut pas dire que c'est des copains. Mais ça veut dire que si on veut dialoguer, on peut, à condition de se mettre, à condition d'avoir... En effet, ça repose la question du vocabulaire dont on parlait tout à l'heure excellemment. Il faut parler le langage de tout le monde et c'est difficile de traduire certains concepts catholiques en langage accessible à tout le monde aujourd'hui. N'empêche qu'il faut y arriver parce que tout est là. Et c'est pour ça que, avec mon ami Guillaume de Prémar, au moment des grandes polémiques de l'affaire Williamson, de l'affaire de Recife, etc., l'année dernière, nous avons lancé un site qui s'appelle Médias et Évangiles, qui est un site destiné spécifiquement aux médias, qui est un site qui, par rapport à chaque événement mettant en cause l'Église catholique ou le catholicisme, donnait aux médias les clés de compréhension pour éviter les quiproquos, les plantages, les interprétations absurdes et les énervements, les effets d'emballement, comme on le voit, hélas, trop souvent. Donc, Médias et Évangiles, c'est un site destiné aux médias, fait par des professionnels de la communication, pour aider nos propres confrères à ne pas se tromper lorsqu'ils veulent commenter un événement mettant en cause l'Église catholique. Et pour ça, il faut effectivement parler le langage des salles de rédaction de manière à être tout de suite compris et à être attirant. Parce que quand Saint-Pierre nous dit « Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous et donner les raisons de l'espérance qui est en vous à ceux qui viennent vous la demander », encore faut-il qu'ils aient envie de venir nous la demander, c'est-à-dire que nous ayons l'air intéressant et attirant au lieu d'avoir l'air revêche et énervé.
Nous passons nos journées sur Internet. Vous dites que les évangéliques ont une longueur d'avance sur nous. En quoi? Que disent-ils? Que font-ils de plus sur leur site?
Écoutez, c'est simple. Top Chrétien, c'est 20 fois plus que le site de la Conférence des évêques de France en termes de visites. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font du trafic. Ils font du trafic et ils annoncent. Ils annoncent très largement. Ils sont très kérigmatiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un copier-coller de leur contenu, mais il faut l'adapter au message catholique. Il faut adapter à notre credo. Il ne faut pas oublier de parler de la Vierge Marie, des Trois Blancheurs, du Saint-Père, de la communion des saints, etc., de la présence réelle. Et voilà. Et ça, ils le font bien parce que d'abord, ils ont, vous savez qu'un bon site, c'est un bon contenu et une bonne technique. Ils ont une technique qui est absolument irréprochable. Ils font appel aux meilleurs spécialistes de la technologie et ils ont un contenu aussi qui est fait justement dans cette démarche d'écoute dont je vous parlais tout à l'heure pour répondre aux questions des gens. Donc, ils ne partent pas de « moi, j'ai envie, j'ai quelque chose à dire », mais qu'est-ce que les gens attendent que je leur dise ? Quels sont les mots-clés qui performent dans les moteurs de recherche ? On sait, on a des outils aujourd'hui pour voir quelles sont les choses les plus tapées dans Google. Eh bien, on utilise ça. Vous savez que dans Google, en 2007, les trois questions les plus tapées, c'était qui est Dieu, qu'est-ce que l'amour et comment embrasser. Donc il faut bien qu'on y réponde à ces questions. Et eux le font. Et je ne crois pas que ce soit sur le site de diocèse ou de paroisse qu'on répond. En tout cas, pas forcément à la question comment embrasser, mais, mais qu'est-ce que l'amour et qui est Dieu.
Moi, il me semble qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder ce que font les gens qui n'ont pas la foi, les protestants, pas, ils ont la foi, mais virgule les protestants et tous les autres. Parce que je me souviens souvent d'une chose, Noël, au départ, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne qui a été reprise par l'Église. Et bien, de la même façon, il peut y avoir à l'extérieur de notre Église catholique des idées géniales et c'est à nous de les voir et de les reprendre aussi à notre compte pour à travers ces idées géniales, et bien, annoncer le Christ. Et notamment, moi, je voyais sur ces blogs, et bien, vous avez des clips qui annoncent Jésus en quelques minutes. Vous avez une minute, mais c'est très entraînant. Il y a de la musique, il y a des beaux personnages qui nous présentent quelque chose, enfin qui présentent le message de Jésus. Vous avez des invitations à la prière, des petites paroles qui peuvent être tirées. Bon, ça, on l'a aussi chez les catholiques. Mais voilà, différentes choses dont on peut s'inspirer.
Alors, pour Exultet, une question. Faisant partie d'une équipe de préparation au baptême et au mariage, les jeunes couples sont d'abord intéressés à préparer la célébration avec musique, donc un livret qui est la porte d'entrée. Éventuellement, ils veulent bien aller plus loin. Comment les guider ?
Ben donc là, on est justement en train de travailler sur un outil dont l'objectif est d'avoir un portail sur le site Exultet qui permette d'avoir des conseils sur comment préparer son mariage, son baptême, et avec un choix de chants. Pour l'entrée, pour l'offertoire, pour la sortie, l'antienne de psaume, etc. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui devrait sortir dans les 2-3 mois qui viennent. Ou tout simplement, en se rendant sur l'espace partition d'Exultet, on pourra cliquer sur animer une célébration ou animer un mariage, avoir un choix de chant, et on pourra trouver dedans à la fois la musique pour l'écouter et pour pouvoir se dire est-ce que c'est celui-là que j'ai envie de prendre. Et puis les partitions pour animer concrètement cette célébration. Voilà. Donc c'est à la fois un outil technique qu'on doit développer et un outil de conseil où justement on crée une équipe de gens qui vont pouvoir sélectionner les chants et proposer ce qu'il y a de plus pertinent pour toutes ces célébrations. Il y a aussi autre chose, parce que je vois que la question c'est quel parcours de préparation à distance ? Je crois que c'est une très bonne question parce que nous, sur le site, on a des choses sur le baptême au niveau de l'enseignement. Mais il y a tout un champ à penser sur quel parcours, justement, à partir de pas uniquement de quelques cours, formations et autres, mais de pouvoir concevoir une vraie pastorale sur Internet où on puisse dire, voilà, vous voulez préparer votre baptême. On vous propose tout ce parcours-là. De qualité, fait par entre guillemets, ouais, des gens compétents dans l'Église et qui puissent servir ensuite. Parce qu'en fait, le gros problème dans l'Église, c'est que chaque paroisse est obligée de réinventer à chaque fois ses parcours et ses supports. Enfin, pas uniquement, il y a des choses qui existent, hein, mais ce qui est intéressant dans ces outils-là, c'est justement de mutualiser nos compétences, de travailler un parcours pertinent et ensuite de pouvoir le proposer à ce qu'une paroisse n'a pas forcément le temps de faire, d'investir une énorme énergie pour développer son propre parcours, et ben d'avoir des propositions larges pour les gens qui viennent demander une préparation au mariage, au baptême et autres.
Dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, là je fais une petite pub là pour Infinitum, si vous voulez venir rapidement. Dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, il y a un certain nombre de propositions sur la présence chrétienne d'évangélisation sur Internet. Rapidement, vous n'avez pas plus de 3 minutes. mais comme ils viennent d'Espagne, on va quand même faire un petit effort, ils vont vous présenter la Maison de Marie, qui est une cathédrale virtuelle.
Yo vengo de España.
Je viens d'Espagne.
Y queremos hace 25 años que trabajamos en evangelización a través del arte y los medios de comunicación.
Cela fait 25 ans que nous travaillons pour l'évangélisation dans le monde de l'art et des moyens de communication.
Nuestra asociación se llama Pelicanus.
L'association s'appelle l'association Pelicanus, Pelican.
Y quisiera solamente hablar de tres proyectos. Uno, un multifestival que se llama Multifestival David, tiene 25 años.
Nous voulons juste souligner trois de nos productions. La première, c'est le multifestival qui existe depuis 25 ans, qui s'appelle Multifestival David.
Que está en todo el mundo, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos.
Qui est présent en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis.
Todos nuestros proyectos son con la intención de evangelizar.
Tous nos projets sont avec cette intention d'évangéliser.
Segundo proyecto es una radio a través de Internet que tiene 5 años y que se llama davidradio.net.
Le second projet c'est à travers la radio sur Internet et qui n'a que 5 ans d'existence et qui s'appelle davidradio.net.
Además de la radio cuando tú entras se abren dos pantallas, un chat y una televisión.
Il y a deux parties à cette radio quand vous entrez sur Internet, la partie chat et la partie télévision.
Es una radio que tiene 24 horas de música católica.
C'est une radio qui produit 24 heures de musique catholique.
Música católica de todo el mundo, no solamente en español, también en inglés, en francés, en portugués, en tagalo, de Filipinas.
Une musique catholique pas simplement de l'Espagne, mais de tout le monde, de l'Europe, de France, d'Angleterre et même des Philippines.
Continuamente estamos renovando todas las posibilidades. Ahora tenemos un apartado donde cada persona puede subir su propia música.
Et nous avons même une partie où chacun peut prendre son propre programme musical.
Recibimos propuestas musicales de todo el mundo. También tenemos un apartado que recibe intenciones de oración.
Nous recevons donc de la musique de tout le monde et nous avons aussi une partie où chacun peut déposer ses intentions de prière.
Pensamos que la iglesia debe ofrecer a las personas que sufren un espacio de acogida y dar a este sufrimiento una esperanza. Los medios a través de Internet nos permiten estar conectados con todo el mundo.
Nous pensons que l'Église devrait pouvoir offrir et offre un espace pour tous ceux qui souffrent, pour entendre leurs souffrances et leur donner cet accompagnement.
Ok. Último proyecto, Infinitum. Infinitum es una página que hacemos con el apostolado del Rosario en Familia, Congregación de Santa Cruz.
Le dernier projet, c'est Infinitum, que vous pourrez voir sur ces petits feuillets, et qui est en lien avec la pastorale familiale du Rosaire de la Congrégation Sainte-Croix.
Infinitum es una página que intenta ser un espacio tranquilo, como nos decía Maya, que tiene espacio de meditación. Padre, ¿puede leer en francés?
C'est un Infinitum veut donner un espace virtuel de paix et de méditation, comme disait Maya, où il y a des images, des sons, de la musique et de la prière, avec des prières pour gens pressés, tirés des vêpres et des laudes. Prière aussi à partir des événements du jour, des informations, avec un espace sonore de méditation.
No tenemos más tiempo. Nuestro folleto está en francés. Si ustedes están interesados, estaremos encantados de poder mostrárselo.
Muchas gracias por esta presentación.
Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais sur le feuillet écrit en français, vous aurez toutes les indications et nous serons très heureux de vous le fournir.
Muchas gracias. Alors, des questions qui s'adressent aux personnes bénévoles qui s'investissent dans le domaine d'Internet. Combien de temps y passez-vous par jour, par semaine? Travaillez-vous par ailleurs? Où trouvez-vous le temps? Auriez-vous à tenir en même... Comment pouvez-vous tenir en même temps les besoins de vos familles et ces activités avec un modèle économique qui puisse permettre... la continuation de tout cela dans le temps. Voilà.
Alors ça prend un temps considérable, ça c'est sûr, si on veut faire vivre un site quotidiennement, alors particulièrement si on fait du journalisme quotidien, parce qu'il faut réagir aux événements. Cela dit, à moi, je suis un peu un privilégié, parce que comme c'est mon métier, de toute façon, de passer mon temps devant l'ordinateur à écrire des bouquins et à faire des choses de ce genre, il suffit d'aller sur le blog pratiquement toutes les demi-heures pour voir les commentaires qui sont arrivés ou pour mettre en ligne un nouveau poste à propos d'un nouvel événement, quelque chose sur lequel il faut réagir ou intervenir. Donc, ça ne me pose pas un problème de temps à moi. En revanche, quelqu'un qui aurait un autre métier que celui de l'écriture sur ordinateur et qui devrait faire ça la nuit, ça veut dire que pour lui, il n'y a plus de nuit. J'en parlais tout à l'heure avec un curé de paroisse qui me disait qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet dans une paroisse. J'ai dit, monsieur le curé, la première chose à faire, vous vous en occupez pas vous-même, vous le confiez à des laïcs qui sauront faire. Parce que si vous le faites vous-même, durant le jour, vous occupez de la paroisse, et durant la nuit, vous occupez du site. C'est pas possible. Voilà.
Moi, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que c'est pas mon blog à moi, ni celui de Marie et moi. On invite tout le monde à venir commenter parce que, franchement, il y a beaucoup trop de boulot. Donc moi j'arrive pas à tout faire, j'y passe déjà pas mal de temps rien que pour publier les billets, les articles, j'y passe en général 10 minutes par article et après je laisse les gens réagir entre eux et si vraiment il faut intervenir j'interviens. Mais voilà, donc vous êtes tous invités dès lundi matin à aller sur www.nounceblog.com.
Et moi, je fais très attention à ce que, pour notre vie familiale, le troisième point que le pape a dit soit bien respecté.
Je remercie la personne qui a posé cette question parce que je trouve que c'est une très bonne question qui rentre dans le concret et dans le réel de l'évangélisation et de la conduite de projets comme ça. Parce qu'effectivement, c'est pour gérer des blogs ou des sites missionnaires, il faut du temps et il faut des compétences. Et parfois, c'est difficilement compatible avec une vie de famille. Moi, j'ai 5 enfants. Et puis, c'est pas toujours des projets très très rentables non plus. Hein. Et donc, du coup, moi, mon organisation personnelle, c'est que j'ai une autre activité à côté et je dégage beaucoup de temps personnel pour développer le site avec une équipe, jusqu'à ce qu'on puisse justement en vivre. Mais il me semble que ça mériterait une vraie réflexion dans l'Église, parce qu'il y a plein de projets qui ne naissent pas. À cause de ça, justement, à cause des moyens. Alors, il y a différents types de moyens. Il y a des moyens, soit on va trouver des donateurs qui vont financer une œuvre d'évangélisation gratuite, hein, et soit on va chercher des investisseurs, et à ce moment-là, on rentre dans une logique plus entrepreneuriale, avec des retours sur investissement et puis une certaine rentabilité. Mais toujours, on passe par la question, soit on peut effectivement rêver d'avoir une sorte de fonds d'investissement d'église qui promeuvent justement les projets porteurs dont l'église a besoin aujourd'hui, parce que pour avoir des sites aussi bons que ceux des évangéliques par exemple, eh bien, il faut des moyens, il faut des personnes, il faut des gens dédiés pour ça. Et donc pour moi c'est une grande question, et c'est aussi une question qui touche la place des laïcs dans l'église. On sent bien que les laïcs ont un rôle de traducteur de l'évangile dans leur milieu de vie. Mais pour ça, alors chacun le fait dans son milieu de vie et c'est très bien, mais sur des projets très concrets, eh ben, il faut la question de savoir comment on les salarie, comment ils peuvent en vivre, eh ben, c'est une vraie question. Voilà.
En parlant de place des laïcs, on pose des questions plutôt sur la place des prêtres. À la retraite sacerdotale, à Ars, le cardinal Schönborn mettait en garde les prêtres contre les abus d'utiliser les médias, Internet, mail, Facebook. Ça rejoint ce que disait le pape Benoît XVI, les addictions, utilisation abusive. Durant la même retraite, un autre évêque témoignait d'occasions d'évangéliser sur Internet, Facebook, notamment. Avec le risque de perdre du temps pour prier. Pourriez-vous nous donner quelques critères de discernement pour un juste investissement par rapport à cette évangélisation en ligne ? Je donnerai mon petit mot tout à l'heure, mais si vous avez, vous, comme quelques conseils laïques.
La question s'adresse à vous.
Ah oui, non, mais aux laïcs aussi, peut apporter.
une petite idée, je crois que tout commence, comme vient de me le dire Marie, par la prière. Si déjà on n'a pas une vie de prière, si Jésus n'est pas au centre de notre vie, on n'arrivera jamais à évangéliser. Donc si on fait passer nos communications Internet avant notre prière personnelle et notre devoir d'État qui est notre travail et notre famille, on n'y arrivera pas. Donc c'est même pas la peine. Mieux vaut passer moins de temps sur Internet que le contraire. Et est-ce que je... Oui.
aussi que c'est pour ça que le Seigneur nous appelle souvent à être deux par deux pour aller évangéliser, parce que comme ça, ben, voilà, on s'entraide pour pas tomber dans des addictions. Et notamment, ben, par exemple, quand Jean-Baptiste rentre le soir, ben, voilà, je lui ai demandé de commencer par s'occuper de Carole et de moi. Et puis quand Carole est couchée, ben, il peut faire Internet. Mais après...
Et c'est très bien comme ça. Et pour revenir à ce qu'on disait, évangéliser deux par deux, trouver des gens qui nous aident. Je crois qu'une communauté, je parlais de communauté tout à l'heure, mais une communauté de laïcs qui serait missionnaire de l'Internet, ça pourrait être fantastique parce qu'il y aurait justement ce soutien d'être deux par deux et puis trois par trois, etc. Ce soutien dans la prière et ce temps passé ensemble, pour ça, c'est une vocation quelque part.
Oui.
Non, j'adhère à ce qui vient d'être dit.
Voilà, alors, moi, je dirais qu'à la fois, il y a une présence, et c'est un outil de communication fantastique aujourd'hui, qu'Internet, et en même temps, il y a une prudence. Et par exemple, lorsque des prêtres vivent en communauté ou qu'ils vivent à plusieurs, les recommandations qu'un évêque comme moi peut donner, que je donne, c'est de jamais mettre Internet uniquement dans sa chambre, mais d'avoir un lieu collectif qui permet une régulation. Pour ne pas être esclave de, d'une part, le risque de dérive qu'on a dénoncé, car il y a tout sur Internet, et en même temps de passer un temps qui serait absolument excessif et qui serait pris sur le ministère. On pose une question aussi. Les internautes parlent de se confesser en ligne. Faut-il combattre ce genre de site ou les laisser émerger ?
C'est encore à vous de répondre, mais il paraît clair que la confession en ligne est une absurdité sur le plan sacramentel. Ça, c'est juste impensable.
Mais on peut envoyer des gens se confesser. C'est comme ça que j'ai fini par rencontrer Mgr Ray en 2002. J'ai envoyé des gens sur Internet se confesser, mais je ne savais pas que c'était de l'évangélisation.
Voilà. Donc, je vérifie que ce sont des bonnes réponses, de bons chrétiens bien formés. La communication n'est pas la communion, hein, au sens où on est dans l'ordre du virtuel, de l'échange à travers un média. Et le Christ a voulu, effectivement, que dans l'ordre de la sacramentalité, il y a un corps à corps, on peut dire, dans l'ordre de la vie eucharistique, hein, le corps du Christ que nous consommons. Mais aussi dans la confession, il y a un contact personnel. Et ça nous dit bien aussi les limites de l'usage de ces moyens de communication qui facilitent un certain échange, mais qui ont une limite objective. La vraie rencontre se passe dans le face-à-face et dans quelque chose que ne peut pas atteindre simplement un certain nombre d'artifices de médiatisation. On rentre dans l'ordre du mystère, de la communication avec l'intime, et cela, il faut vraiment le préserver. Tout le mystère de la communication de l'Église ne pourra pas se dire uniquement par les moyens de communication. Ça suppose une rencontre et l'accueil du mystère de l'autre. Voilà. Merci à tous.